I have a dream. A dream. A dream.
Anne-Gaëlle Godichaud, et une fois de plus, j'ai emprunté le micro de Charles Cécile pour continuer l'enquête sur le conte et les conteurs. C'est pas pour dire, mais aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une grande dame du conte qui s'appelle Muriel Bloch, qui a participé aux prémices du renouveau du conte en France il y a une trentaine d'années. Elle est à Nantes ce soir et demain soir. Et j'ai rendez-vous avec elle dans son hôtel, pas très loin de la place. Oh là là ! Mais je trouve une place ! Miracle ! Je rejoins donc Muriel Bloch dans son hôtel qui est juste à côté du marché Talensac. On est samedi matin. Le temps de traverser la place. Et rendez-vous tout de suite avec Muriel Bloch.
Samoromo ton dugalajo chei sufeyo baili ton di ton samoromo ele deinyo chei sufeyo
femme s'en est allée chercher de l'eau dans la forêt. Soudain, devant elle, un arbre, au tronc très large, un splendide gaillac. Elle lâche le seau pour enlacer l'arbre longtemps. Et elle enfonce ses ongles dans l'écorce du tronc du gaillac et murmure « Oh, comme je voudrais que tu sois un homme !» Puis lentement, comme à regret, elle se détache de l'arbre et continue sa route pour chercher de l'eau. Plus tard, l'arbre se déracine, ses branches deviennent des bras et des jambes. Le gaillac est devenu un splendide gaillard qui part à la recherche de la femme. Quand il la retrouve endormie, il se couche à ses côtés. Le lendemain, elle découvre un bel homme dont le dos est entièrement griffé.
Bonjour.
Bonjour.
Depuis 30 ans, tu collectionnes les boîtes de sardines, les boutons, les papiers, les capsules et les contes. Tu dirais ça? T'es une collectionneuse de contes?
Oui. Ah oui, je peux dire ça, oui. Oui, parce que... Moi, j'ai toujours peur de manquer, donc j'imagine dans l'idée que je me fais du conteur qu'il faut sans doute trouver le bon conte au bon moment, ça c'est l'idéal. Mais avant d'être capable de faire ça, je pense qu'il faut connaître beaucoup de contes et à un moment donné, bah, c'est eux qui décident d'une certaine façon. Alors... Je trouve passionnant dans ce métier qui est le nôtre d'apprendre et de constituer comme ça une sorte de réservoir. Enfin, moi je me vis un peu comme ça. Pendant longtemps j'avais cette image de Dali, il a réalisé plusieurs fois d'ailleurs. Cette femme tiroir étrange, une espèce de femme girafe, pas du tout moi, femme girafe, mais en tout cas dont le corps était composé de différents tiroirs. C'est d'ailleurs une sculpture qu'il a réalisée qui est à la gare de Waterloo Station à Londres aussi. Il en a fait des tableaux, plusieurs fois il est revenu là-dessus. Et je sais pas, j'étais obsédée par cette image-là de...
La femme tiroir.
Voilà, tu vois, d'être en provision, quoi. Enfin, de pouvoir approvisionner. Bon, je sais pas, j'ai une mère qui avait des placards toujours pleins de trucs. Dès qu'il y avait une boîte de conserve qui était utilisée, hop, elle l'a remplacée. Enfin, voilà, cette espèce de peur de manquer. Bon, c'est peut-être ça.
Et tu voyages pour chercher des comptes ? Tu t'es beaucoup promenée en Afrique, en Europe de l'Est, aux Antilles, en Orient. Pourquoi se déplacer ? Pourquoi aller chercher ailleurs ?
Si tu racontes un conte géorgien, moi je trouve pas mal d'aller voir à quoi ça ressemble sur place. À quoi, quelles sont les odeurs, à quoi l'air, la terre, comment les gens sont habillés, comment on mange, les goûts, les saveurs. Bon, tu peux trouver ça dans un documentaire, mais c'est pas mal d'y aller. Moi, j'aime les voyages pour ça, les rencontres, et j'aime écouter des langues. Et ça me suffit pas de trouver un conte dit d'un pays, d'autant qu'on a beaucoup de... Je suis pas ethnologue et mon travail n'est pas celui-là, mais j'aurais rêvé d'avoir une formation solide en ethnologie. Et du coup, j'ai l'impression que si on veut que les contes nous survivent, et ils nous survivront bien sûr, il y a un minimum de respect à avoir. Et ce respect, ça consiste, sachant que de toute façon on est des pirates et qu'on est des voleurs, on est tout ça en tant que conteur. C'est pas mal d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, je dirais le cadre, le paysage, d'écouter la langue, de manger les nourritures qui sont présentes dans les contes, parce que c'est des histoires de vie, donc on est libre de faire n'importe quoi, mais moi je trouve que j'apprends mieux encore à apprécier les contes en essayant d'aller là où ils ont été racontés. Et puis souvent, à l'issue d'un voyage, j'ai envie à mon tour de mettre un tout petit caillou, enfin même pas une pierre, si tu veux, dans l'édifice, et de dire, ben voilà, je suis pas de cette culture-là, je vais pas faire comme si, mais voilà comment j'ai perçu les choses, et j'ose vous proposer ma manière de raconter une chose qui ne m'appartient pas.
C'est drôle, cette idée de pirate. Pourquoi pirate ?
Ben parce que les pirates, ils recèlent des trésors, tu vois, ils aiment les coffres avec dans l'imagerie. Et donc, quand je te disais que j'aime collectionner les contes, je pense que c'est un acte de piraterie parce que dans la collection, t'as tout et n'importe quoi. Et c'est important à la fois d'aller chercher du côté des livres à caractère scientifique, comme dans les livres d'enfants, ou simplement une image, une manière de raconter un épisode ou... voilà. Et donc on pirate sans cesse, je crois, les sources. Voilà. Je crois qu'on invente peu la structure des récits, puisqu'ils existent. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin encore d'aller inventer quelque chose ? Mais par contre, on invente complètement la manière de les raconter. C'est ce que j'appelle le piratage. Et puis c'est une façon de... trouver un point de vue quand même. Il y a un moment, il faut que... Tu te demandes, mais qu'est-ce que moi je peux apporter ? Voilà, bon, c'est pas prétentieux, c'est juste, c'est intéressant de se demander, est-ce que ça vaut le coup ?
Un enfant marche dans la rue, quelque part à Dakar ou à Kinshasa. Un enfant qui vit dans la rue. Et il dit... Souvent, je me débrouille pour regarder la télévision quelque part. Petit à petit, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Les informations. Mais je ne sais pas où les choses ont lieu dans ce monde. Je ne sais pas les mettre à leur place. Celle où il est dit qu'elles arrivent. Je ne sais pas où cela se trouve. Tout est loin. Je finis par me dire que ce que montre la télévision ne se passe que dans la télévision.
Deluna, Omniman Li Tubir Telebei Amul Fenen.
Il y a des femmes orchestres, des femmes girafes, des femmes plateaux, des femmes tiroirs. Muriel Bloch, elle, est plutôt du genre des collectionneuses, piratesses, receleuses de trésors comptés. Anne-Gaëlle Goduchaud la rencontre aujourd'hui, et c'est pas pour dire, mais vous êtes très gâtée, car toute l'histoire du renouveau du conte en France est évoquée ici par cette femme de l'oralité et du livre qui a beaucoup édité depuis plus de 30 ans.
T'as beaucoup édité. Gallimard, Cyrose, Didier Jeunesse, Attier, Albin Michel, Naïve aussi pour les éditions plutôt disques.
Et... Non, c'était des contes. Moi j'aime beaucoup faire des livres disques. Je pense qu'il faut entendre et puis montrer que la langue orale n'est pas tout à fait la langue écrite. Mais ça, c'est pas gagné auprès des éditeurs.
C'est quand même une vraie particularité. Je veux dire, j'ai discuté avec un certain nombre de conteurs pour qui l'écrit, d'une part, et l'enregistrement, d'autre part, sont une espèce de sacrilège ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, là-dessus ?
C'est pas du tout un sacrilège. Je veux dire que... Les contes, c'est fait pour être entendu. Donc enregistrer, ça me paraît... Alors on peut jamais être content des enregistrements parce que ça fixe les choses à un moment. Et donc c'est très douloureux d'enregistrer. Moi, je suis jamais contente de ce que j'enregistre, rarement. Mais cependant, je trouve que c'est un travail de précision, justement, qui est très intéressant et qui m'apprend à chaque fois. Mais pour ce qui est de l'écriture, après, moi, quand je te parlais de piller, j'ai emprunté beaucoup à des livres. Donc, quand à mon tour, je décide de faire un livre, c'est pour proposer quelque chose qui a été a priori pensé. Et je viens de la littérature. Donc, ma manière de m'inscrire dans une chaîne de transmission, c'est par l'écrit, puisque j'ai pas comme ça entendu tout ce que je raconte. J'ai beaucoup... farfouillé et beaucoup emprunté au livre. Donc il est normal de leur rendre quelque chose. C'est ça, le vrai...
C'est ça.
Donc écrire, c'est aussi compliqué parce que à un moment donné, voilà, on peut plus revenir dessus. J'ai beau raturer jusqu'au dernier moment à rendre les éditeurs chèvres parce que j'ai toujours changé, mais jusqu'au dernier moment. Être confronté avec une publication, là aussi, c'est un travail différent. Arrivera sans doute aussi le travail de l'illustrateur qui tout à coup t'ouvre un autre monde. Donc tout ça, moi je trouve que ça fait partie de mon métier. Je le considère comme un tout. Et aussi douloureux que puisse être un temps d'enregistrement avec les questions qu'il pose, aussi douloureux que soit l'écriture qui sans doute trahit cette dimension orale du conte. Trouver une écriture justement qui soit musicale, orale et qui soit à lire et à entendre surtout, je trouve que ça fait partie de mon travail. Ouais.
Comment tu choisis les récits ?
Je pense que c'est lié à des moments de vie, à des voyages aussi. Le prochain livre que je souhaite faire, c'est rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup... apporté en... J'ai pas eu de maître conteur qui m'a dit « Tiens, vas-y, bon. » Mais j'ai rencontré, d'ailleurs, grâce à Bruno de la Salle, que j'ai connu il y a très longtemps à Beaubourg, et avec qui on a organisé une exposition qui a fait date, je pense, dans l'histoire du renouveau du conte. À l'époque où je travaillais à Beaubourg, en 79, on avait invité... grâce à Bruno qui la connaissait, une femme d'origine russe qui s'appelle Luda Schnitzer, avec qui j'ai entretenu une relation d'amitié et j'estime qu'elle m'a appris énormément tout en disant très peu sur c'est quoi les contes. Et... Alors, quand j'ai connu Luda...
Elle était conteuse,
Elle était écrivain, elle était sculpteur à l'origine, elle était poète. Oui, elle écrivait les contes avec une manière très à elle, très dru en ce qui concerne les contes populaires russes ou du Grand Nord, hein, puisque je, dans le temps où j'ai raconté, j'ai aussi travaillé dans l'édition, et je me suis efforcée de publier des textes d'elle, et j'ai appris à découvrir ce que c'est qu'une écriture de contes. Elle était un peu une sorte de modèle pour moi, tout en étant extrêmement discrète sur les sources et mystérieuse, voire mystérieuse. Donc, j'ai eu envie de raconter Louda, mais on ne peut pas la raconter comme elle écrit exactement. J'avais fait un disque où je souhaitais justement donner à entendre sa langue, donc j'étais d'une fidélité irréprochable. Parce que je disais, avec les musiciens, je raconte les textes de Louda et c'est Louda qu'on doit entendre, et c'est pas moi. Mais c'est sa langue.
Elle avait elle-même pas enregistré rien ?
Non, c'était pas sa problématique. Elle voulait écrire pour les enfants. Elle défendait la littérature orale. Alors, elle a énormément adapté. Mais chaque fois que je trouve un conte en particulier d'Asie centrale ou de la Grande Russie, ou enfin jusqu'au Grand Nord, comme ça, sibérien, elle avait une familiarité avec ces cultures qui faisait qu'elle savait de quoi elle parlait. Et elle ne me donnait pas les sources. Donc encore aujourd'hui, quand je trouve des contes qu'elle a racontés et que je trouve dans des bouquins, je ne sais pas, chez Grund ou comme ça, je me dis, bah oui, elle a apporté un point de vue, une écriture sur le conte. Donc je sais ce que c'est qu'écrire un conte grâce à elle. Du coup, bah, j'ai commencé beaucoup par raconter Louda, d'autant que j'avais fait du russe au lycée et que j'aimais prononcer, tu vois, les mots. Tsar, Boyar, Ivan Tsarevitch, Lisba, Baba Yaga, tout ça. Ça m'était familier en termes de musique, des mots. Et puis de contenu aussi, voilà.
Sentiment de loin, c'est Tchokan, avec l'ami Mirai Trestian au cymbalum, Jacob Masiuka au violon, Daniel Givonne à la guitare et Simon Marie à la contrebasse. Thank you.
découvrant un peu plus le monde, il y a eu des régions du monde qui m'ont particulièrement inspirée. Mais après, c'est des berceaux de civilisation. Si tu veux raconter le Caucase, ça va de soi pour moi. Plus difficile sans doute avec l'Afrique de l'Ouest, mais ça c'est en lien avec des musiciens que j'ai pu raconter. Je reste l'occidentale que je suis avec ma manière de parler, mais je dirais pas vraiment les Antilles, mais Haïti c'est parce que j'y suis allée. La culture afro-américaine, j'ai pu la côtoyer parce que je suis allée dans le sud des États-Unis.
Ouais, tu dis que ça part d'une culture et là-dedans tu te baignes et tu te laisses inspirer par.
Oui, ou d'une lecture tout à coup. J'emprunte à la bibliothèque un bouquin pour le titre ou pour. Alors je me farcis des récits qui ne m'intéressent pas, puis tout à coup il y en a un. Et là je. Je ne sais pas trop pourquoi je le raconte, hein, mais je sais qu'un des premiers contes qui a circulé à partir du moment où je l'ai raconté, donc tu sais qu'un conte aura une vie, une belle vie, c'est quand tu sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de le raconter. Alors après, il t'échappe et puis tu peux te foutre en colère parce que tu trouves que les autres l'ont raconté n'importe comment, alors que toi, tu as fait un boulot dessus. Bon. J'ai un exemple très très précis qui est ce conte géorgien que moi j'ai intitulé La femme jardin, qui était un emprunt à un bouquin de collectage de contes populaires géorgiens. Et quand je l'ai à ma façon adapté, il ne s'agissait pas du tout d'une femme jardin mais une femme de l'air, tu vois, bon, j'ai été voir Luda pour lui demander est-ce que je fais des bêtises en faisant ça. Et elle a trouvé que non, que c'était tout à fait juste ma manière de. Et j'ai cru que ce conte était unique au monde. Donc je me suis dit, c'est génial, parce qu'au début, tu cherches l'originalité à tout prix. Et après, je me suis rendu compte que c'est un conte important pour les femmes, qui dit leur relation aux hommes dans une grande partie des cultures, essentiellement du Sud. Donc la Géorgie, c'est le Sud de la Russie, mais le même conte, avec ses variantes, se trouve en Grèce, en Italie, en Corse, dans les Alpes du Sud, etc. Donc, mais petit à petit, tu réalises que jamais tu trouves vraiment un orphelin. Ou alors, s'il est orphelin, il y a un doute, quoi. Mais du coup, c'est ça qui est tellement passionnant. C'est une enquête policière, travailler autour des contes. Franchement, c'est chercher des indices.
C'est là que ça rejoint et l'ethnologie et... Et le travail littéraire aussi.
Bien sûr, bien sûr. Le jour où, allant chez Luda, comme on va un peu, tu vois, chez le psy, faire la passe, quoi, enfin, je sais pas, vérifier là où on en est, j'avais trouvé un conte inuit, à l'époque on disait Eskimo, et je commence à lui raconter, elle m'arrête tout de suite, parce que j'avais évoqué un tas d'ordures près d'un igloo. Elle me regarde, mais vous imaginez un tas d'ordures comment près d'un igloo, Muriel? Je sais pas, j'avais jamais. Tu vois, des choses comme ça. Ça peut être incongru, et puis ça peut être un choix, ça peut être décidé. Mais là, c'était mon ignorance. Je voyais un tas d'ordures comme à la sortie du village ou devant mon immeuble à Paris, tu vois, à peu près, quoi. Donc tout ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et le conte, comme c'est pas n'importe quelle histoire. Tu peux pas raconter des conneries comme ça. Or, on en raconte beaucoup et de toute façon, on n'y échappe pas. Ouais. C'est pas très grave puisque on est soi-disant dans l'imaginaire. On est toujours dans l'imaginaire, mais on est très concret et il y a énormément de réalité dans les contes, pas seulement symbolique, psychologique, ça, mais à mon avis, dans le documentaire, tu peux pas absolument dire n'importe quoi.
Tu dirais qu'il y a une partie documentaire dans ton travail?
Ben oui, parce que quand je te donne l'exemple du tas d'ordures près de l'igloo, je pourrais t'en citer bien d'autres. Je pense que la manière dont tu évoques les personnages, la manière qu'ils ont d'être habillés, de se comporter, puisque le conte est beaucoup affaire de civilité et de leçons de vie. Les codes sont pas les mêmes d'une culture à l'autre. Et je dirais même plus, tu racontes sans doute pas de la même manière les mille et une nuits qu'un conte animiste du Grand Nord, c'est évident. Tu vois, donc t'apprends d'une culture, t'apprends d'une civilisation, et le conte en fait partie. Donc c'est aussi de l'ordre du documentaire. Si t'es dans les mille et une nuits, faut que tu saches un peu à quoi ça ressemble Damas, à quoi ressemble un souk, c'est quoi un porteur d'eau, un portefeuille, enfin, faut les visualiser, oui.
Quand j'ai quitté Dakar, j'étais carrément en retard pour attraper l'avion. Comme un taxi passait, je suis montée dedans avec mes peignes, mes pagnes et mes paniers. Direction aéroport Léopold Sédar Senghor, s'il vous plaît. J'allais mettre la ceinture de sécurité quand le chauffeur de taxi m'a dit « Ah non, 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 ne la mettez pas ici, c'est interdit. » « Comment ? » a protesté la ceinture de sécurité. « Non mais j'en ai vraiment marre de servir à rien, moi je rends mon tablier. » À ces mots, le chauffeur du taxi a perdu les pédales. Il a déguerpi en quatrième vitesse, abandonnant son véhicule en plein milieu de la nuit fait d'herbe.
Non, nous avons pris le taxi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Mais si je veux faire ma ceinture de sécurité, le chauffeur m'a dit « Dé, fais qu'on fait ta ceinture de sécurité ?» Ah non, le ceinture est dans le tépite, dans le corps, man, ça en a marre d'être ceinture de sécurité sans assurer la sécurité. Ah, non, le chauffeur m'a dit « Dali, jachasso. »
J'ai couru derrière lui avec mes peignes, mes paniers, mes pagnes. Tout essoufflé, on est arrivé dans la médina. Soudain, à la hauteur de la rue 7, un tailleur m'a reconnu. Eh, madame, le costume de ton mari est prêt, viens le chercher. Ah non, a protesté la machine à coudre, j'ai pas fini l'ourlet du pantalon. À ces mots, le tailleur a perdu les pédales, il a déguerpi en quatrième vitesse.
Hey, madame, hey, ce costume de cœur du père, il n'y a pas de costume. Je lui ai dit, je lui ai dit, non, il a dit,
dans les rues de la Médina, on était trois à courir. Le chauffeur de taxi, le tailleur et moi avec mes peignes, mes paniers et mes pagnes. Et puis aussi toute une nuée d'enfants qui nous escortaient. On est passé devant la grande mosquée au moment de l'appel du muezzin, mais on s'est pas arrêté malgré l'envie des peignes, des paniers et des pagnes de se poser un peu. On a remonté l'avenue Ponty, on bousculait tout le monde sur notre passage et en nous voyant courir, la blanche cathédrale, auréolée de son dôme et de ses trois minarets, s'est mise à danser avec la loterie nationale sénégalaise, l'ONAS. Place de l'Indépendance, il y avait une nouvelle marchande de journaux au coin de l'avenue Albert Sarro. Elle parlait un français débrouillé. J'ai voulu acheter le soleil. Et c'est alors que les autres journaux se sont froissés. Eh, nous, froissés vraiment, hein, ils se sont mis à faire l'article tout seuls.
Achetez, tract, demandez le cafard s'il vous plaît. Mané, plongez-vous dans le populaire. Eh, boss, achetez frasque, ouai. Sud, c'est le quotidien. Témoin toujours présent. Ici, Wal Fadjiri, je suis l'aurore. Eh, ne ratez pas, Morsi, hein. La République, hop.
Pas, il faisait un de ces ramdam macadam pas possible. Toute la presse locale et internationale était sans dessus dessous. Pas moyen de la faire taire. La nouvelle marchande de journaux, les nattes au vent, a perdu les pédales. Elle a déguerpi en quatrième vitesse, avenue Room, direction le palais présidentiel. Alors nous, on a couru derrière, le chauffeur de taxi, le tailleur et moi, avec mes peignes, mes paniers, mes pagnes. Quand on est arrivé, épuisé, impossible de porter plainte contre les journaux, la machine à coudre et la ceinture de sécurité, vu que ce jour-là, les gardes rouges étaient en congé. Les grilles étaient donc fermées. On s'est affalé sur les marches, et c'est alors qu'on a entendu les grilles nous murmurer
« Oh, allez, pas de quoi perdre les pédales, les amis. Si la vie n'est pas belle, c'est qu'on l'arrange mal. »
Le lendemain matin, on a levé les voiles avec le premier avion d'air on ne sait jamais, la marchande de journaux, le tailleur, le chauffeur de taxi et moi avec mes peignes, mes pannes et mes paniers. On a atterri à Paris Charles de Gaulle et depuis, il y a une nouvelle bande des quatre à Paris du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Car il faut bien que chacun fasse son soleil pour ne pas le regretter.
Tu parlais de transmission tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ton rapport à la transmission ?
Je pense que la chance des conteurs, c'est d'opérer, entre guillemets, tout terrain. D'être opérationnel sur tout... partout, le plus possible, parce que quand même c'est un art assez pauvre en termes de logistique, etc. Donc moi je continue d'aller dans les écoles parce que j'aime ça. Je continue de penser que les enseignants doivent être aidés, formés, redonner le goût de l'oralité à l'école, c'est pas hélas, c'est pas suffisant aujourd'hui dans l'éducation, ça va mal. Donc le compteur a sa place dans ce domaine. Les bibliothécaires, je dirais qu'elles m'ont permis de gagner ma vie en achetant mes bouquins et en m'invitant. Il est normal de travailler avec elles, c'est leur terrain, c'est leur formation. Malheureusement, aujourd'hui, la formation des bibliothécaires ne laisse pas assez de place, encore une fois, à l'oralité. Et puis, on les terrorise un peu avec l'heure du compte et avec les compteurs pro. Moi, je pense que ça fait partie du métier de bibliothécaire et certaines en ont bien conscience. D'autres, ce n'est pas leur truc, l'oralité, elles auront d'autres compétences, tu vois. Mais ça participe de la transmission. Et puis dans le travail de formation entre guillemets d'atelier, on apprend toujours énormément dans l'échange. Donc je crois que la transmission, elle s'est posée très très vite au début du renouveau du conte à travers la figure de Bruno de La Salle, voyant que tout ce qui relevait du folk, notamment en musique, ça s'était étiolé Si on voulait que le conte se propage à la manière d'une contagion, hein, à cette époque on était un peu comme ça en 80, même sans doute lui un peu avant, il fallait tout de suite transmettre ce qu'on avait appris. Alors il n'y avait peut-être pas la digestion, mais je pense qu'on osait des choses que je n'oserais peut-être pas aujourd'hui.
Je me souviens de discussions avec Annie Kiss à ce sujet qui disait « Oh, mais on a organisé des stages pour 30 bibliothécaires, je ne ferai plus jamais ça !» Puis je venais juste d'apprendre à raconter, enfin...
Voilà, il y avait une urgence à transmettre tout ce qu'on connaissait, et sans digestion. Mais en même temps, moi je me souviens d'avoir osé des choses que peut-être je n'oserais plus aujourd'hui, dans une sorte d'inconscience ou une ignorance. Mais il fallait vite transmettre, du moins... le plaisir de raconter, la nécessité déjà de le faire, très vite. Alors ça, c'est une des formes de la transmission. Puis, je pense que chaque fois que tu racontes un conte, tu transmets quelque chose d'une culture, tu transmets aussi, bien évidemment, des émotions. Pour ce qui est du conteur, dans sa spécificité, je pense qu'à chaque fois, tu transmets quelque chose qui est, j'insiste là-dessus, pas seulement de l'imaginaire, du plaisir et du voyage, mais des éléments, culturels. Donc, c'est une mémoire que tu transmets. C'est plus grand que toi, c'est une mémoire plus large que ta petite personne.
Et si le conte oublié par la femme de la ville d'Agra était celui-là? Il existe encore un endroit secret, un endroit qu'aucun homme n'a été capable de découvrir sur la terre, et cela depuis de nombreuses générations. Aujourd'hui encore, avec toutes les voitures, les autoroutes, les touristes, personne ne l'a encore découvert. C'est une grotte, et dans cette grotte vit une très vieille femme. Elle est tellement vieille que son visage ressemble à une noisette ratatinée. Elle est habillée de cuir brut, de peau de bête. Et elle est assise dans cette grotte depuis 1000 ans davantage. Elle travaille à coups de rue couverture, avec des piquants de porc-épic. À ses pieds, un gros chien noir veille, et le chien ne la quitte pas des yeux. Pourquoi ? Parce que non loin de là, un grand feu brûle, allumé voilà 1000 ans au moins. Et au-dessus du feu, un grand pot de terre est suspendu. Dedans bout une soupe de fruits rouges. Et ça sent bon dans la grotte. Ça sent bon depuis 1000 ans ou plus. de temps en temps, la vieille femme se lève péniblement pour remuer la soupe. Elle est si vieille, si faible, qu'il lui faut du temps pour se lever, du temps pour clopiner jusqu'au feu. Et lorsque la vieille femme a le dos tourné, l'énorme chien noir n'attend que ça. Il n'attend que ça pour retirer les piquants de Porc-Épic. Il se précipite pour lui défaire sa couverture. Et comme ça, la femme n'avance pas dans sa couture. Et comme ça, la couverture reste à moitié terminée. On dit que lorsque cette vieille femme aura fini sa couverture, à l'instant même où elle aura cousu le dernier piquant de Porc-Épic, ce sera la fin du monde.
Tu parles de conteur dans sa spécificité. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un conteur ?
Ben justement, un conteur, c'est quelqu'un qui transmet une mémoire et des histoires qui ne sont pas seulement personnelles, mais surtout universelles. Alors, bon, il y a les raconteurs, il y a des gens qui savent formidablement bien raconter leur vie, donc ceux-là, tu les écoutes tout de suite et tu es suspendu à leurs lèvres, comme on dit. Mais je crois que la première tâche, si le mot est possible, oui, c'est de dire des contes. Après, on peut s'intéresser à des récits plus littéraires, on peut défendre des auteurs, on peut lire, mais a priori, le conteur, c'est celui qui dit des contes. Et il sait d'où viennent ces contes. Parce que ça aussi, c'est une vraie... Et si possible, voilà, il a le souci de ne pas justement transmettre n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un d'important. Moi, je m'en fais une idée assez haute, et donc ça prend du temps. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'écrivain Walter Benjamin qui dit que tu transmets pas seulement une histoire, tu transmets une expérience. Et c'est pour ça probablement que les conteurs traditionnels étaient un peu plus âgés que les gens qui se lancent dans le conte aujourd'hui, parce qu'ils doivent transmettre une expérience de vie. Faut avoir sans doute aimé, souffert, je sais pas quoi, voyagé. Bon, on peut voyager dans sa chambre, hein, mais... Alors, les jeunes, entre guillemets, aujourd'hui, sont sans doute beaucoup plus expérimentés, si je parle de l'expérience, que moi je l'étais. Enfin, quand je vois la génération de mes enfants, ils ont sans doute su des choses beaucoup plus rapidement que moi à leur âge. Bon. Mais quand même, ce qui est de l'ordre de l'expérience de la vie, l'expérience humaine, tu l'acquiers au fil des ans. Et c'est ça que tu transmets plus encore que l'histoire elle-même. Du coup...
Je parle aussi du public ou des programmateurs ou quoi. On ne sait pas trop bien ce que c'est que cette chose-là. Comment faire le lien avec le public
Dans les années 80, je crois, on était très peu. Hein, puisque moi, j'appartiens à ce premier cercle. Certains venaient de mai 68, d'une volonté de proximité avec l'auditoire, d'un art... beaucoup plus direct auprès des gens, parler des choses qui les souciaient, mais de manière assez simple, parce que c'est un langage simple. Donc il y avait une fascination pour l'efficacité, je dirais, de la relation au public que les acteurs n'ont pas et nous envient parfois, même avec nos maladresses.
Donc ça serait déjà dans la relation, une espèce de... Il y aurait quelque chose du côté de la relation, quand même.
De la communication plus directe que le théâtre ne pouvait le faire sans doute à cette époque-là. Ça, c'est une chose importante dans les transformations, je dirais, culturelles. Bon, ce que je t'expliquais, c'est qu'on découvrait le matériau aussi. Tu m'aurais demandé de t'expliquer ce que c'est qu'un conte merveilleux en 80. Vagos, je m'autorisais pas ce que je peux m'autoriser aujourd'hui dans les libertés que une petite culture du conte me fait prendre, parce que maintenant je me repère mieux, mais à cette époque-là, transmettre des contes, et puis les prendre comme ils étaient, pas trop se poser de questions, essayer de choisir, sa confiance, à son intuition, mais surtout dans la relation au public, il y avait quelque chose quand même de très libre. Et il y a toujours quelque chose de très libre. Quand tu m'évoquais les gens qui disent on prépare pas parce que quoi, on veut sentir le public et on veut se mettre au diapason. Pour pouvoir être au diapason, il faut écouter, il faut prendre son temps, il faut fouiner avant, savoir où tu vas, connaître un peu les gens à qui tu t'adresses. Et autrefois, alors...
Et toi-même, t'être bien préparé. Ça veut dire avoir un certain nombre d'histoires dans ton bagage, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et parce qu'il faut que tu puisses choisir dans ce cas-là. En admettant que tu puisses sentir l'endroit où tu es et les gens à qui tu vas raconter, il faut aussi que tu puisses choisir quoi.
Alors moi, je prépare toujours des menus. Hein, considère que... Voilà. Et puis j'essaye, à travers un menu, de construire un parcours... Tu les mets pas n'importe comment. Enfin, tu dans un menu, tu commences pas en général par le dessert. Donc tout ça, c'est de l'architecture aussi.
Tu parles de menu, tu dis donc
un propos. Voilà. Bon, il y a une thématique qui m'est demandée parfois, donc j'y réponds. En général, je dis toujours oui, à moins qu'elle soit vraiment trop conne ou vraiment improbable, quoi. Mais ça me permet de chercher des comptes. Et du coup. Avec cette complicité qui s'est construite depuis 2 ans et demi avec Joao, je sais que je peux lui proposer différents comptes, qu'on a ensemble un choix large de comptes. Bon. Ça m'engalait, par contre, je voulais que ce soit tissé comme un tissu, et donc il y a une construction qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui traite vraiment de cette question du tissu, de celle qui tisse par excellence le tissu, l'araignée. Et c'est une figure, encore une fois, en Afrique de l'Ouest, donc il y a une grande partie, mais pas seulement. Et du coup, il y a, autour d'une thématique qui est celle du tissage du fil et de la parole, thématique d'évidence et très simple, même simpliste, il y a une proposition qui se tient, donc qui est cousue, qui fait que la tapisserie, si tu veux, elle est la même a priori. Mais hier soir, en rentrant à l'hôtel, je lui dis, tiens, demain, vu qu'on a un temps relativement court, parce qu'il y a un autre spectacle après nous, qu'en général, ce tissage dure 1h30 et que là, on ne peut pas se le permettre, comme on doit supprimer des comptes dans la tapisserie, je lui dis, tiens, si on commençait par celui-là, au lieu de... parce qu'on n'a jamais le temps de le faire à la fin, et bon, on pourrait tout à fait faire un prologue en commençant par celui-là. Il m'a dit, si tu veux, tu vois. Alors oui, bon, après, est-ce que ça tient dans la construction, elle est un peu artificielle, mais elle m'amène quand même à tenir le fil. Et c'est ça qui me passionne.
Voilà. Je dis juste, ce qu'on entend, c'est les nombreux bracelets de Muriel.
C'est la quincaillerie, bah oui, c'est ça. Le conte, c'est aussi la quincaillerie.
Le tissu et les bracelets.
Voilà, oui, ça c'est deux frivolités que j'aime, ouais.
Et le petit ruban de Salvador.
Ouais, ça c'est ma prof de portugais qui me l'a attaché au poignet et on attendra.
Trois vœux, il faut attendre que ça
Ouais, mais les vœux ne se réalisent pas toujours, hélas. Alors que dans les contes, ils peuvent se réaliser. Je crois que c'est pour ça qu'on raconte aussi.
Tu dis ça?
Ben, je pense que, hélas, dans nos vies, les contes n'empêchent pas de souffrir, de mourir, de tout ça, mais ils permettent un peu de comprendre quelques fonctionnements de la complexité humaine. Et c'est aussi pour ça qu'on les raconte.
C'est l'histoire de deux tziganes heureux. Lui s'appelait Niglo et elle, Vana. Ils étaient comme deux papillons volant l'un autour de l'autre, deux amoureux fous l'un de l'autre. On dit qu'au premier regard, ils s'étaient aimés et qu'ils ne s'étaient plus jamais quittés. Quand on les a mariés, ils avaient tout juste 17 ans. Bientôt, le ventre de Vana s'est arrondi pour la plus grande joie des deux jeunes gens. Mais plus le ventre de Vana s'alourdissait et plus ses forces diminuaient. Personne alentour ne savait pourquoi ni comment y remédier. Et Niglo avait beau tout faire à sa place, cuisiner, laver, chercher l'eau,
Vanna dépérissait. Au moment même où elle a accouché d'un beau petit garçon, la mort l'a emporté.
Ashundaye mori, more bibachta. Ashundaye mori, more bibachta. More bibachta, prokleto aven. More bibachta, prokleto aven.
Noyée par le chagrin, Niglo a voulu mourir avec elle. Et longtemps, il a gardé enlacé dans ses bras sa femme et le petit. Le lendemain matin, il était devenu comme fou. Il a déchiré puis brûlé tous les vêtements de sa femme bien-aimée. Il a attrapé sa guitare et l'a jetée dans le feu. Ensuite, il a pris les assiettes, les casseroles, la table, les chaises, tout ce qu'il y avait dans sa maison et il a tout fait disparaître. De Vanna, il n'a gardé qu'une photo qu'il a accrochée autour de son cou. Une fois la morte pleurée par les siens et les cadeaux placés dans son cercueil, on l'a enterrée au cimetière du village. Cependant, dès le lendemain soir, Niglo, qui ne pouvait pas dormir, a vu, éclairée par la lune, une ombre s'approcher du berceau de son fils. Un frisson lui a parcouru le dos. Cette ombre, il la reconnaissait. C'était celle de Vanna. La revenante a pris dans ses bras l'enfant qui pleurait, et pour le calmer, elle lui a offert son sein. Aussitôt, le petit s'est mis à téter goulûment. Tout en chantonnant faiblement, l'ombre s'est mise à bercer avec tendresse son bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis elle s'est éloignée et elle a disparu derrière les montagnes. Dès le lendemain soir, Niglo a emmitouflé son fils dans une épaisse couverture et il a mis autour de son cou un collier tressé de gousses d'ail pour éloigner la revenante. À la nuit tombée, il a guetté l'ombre de Vanna sur les murs de la maison. Et quand elle s'est approchée du berceau, à la vue du collier, la revenante a poussé un cri et elle a reculé. Empêchée de tenir son enfant, elle s'est mise à sangloter si fort que Niglo n'a pas pu résister. Il a arraché le collier talisman du cou de son bébé et il a défait la couverture. Aussitôt, l'ombre d'un léger mouvement de la tête a semblé le remercier. Puis vite, elle s'est saisie de son fils pour le rapprocher de son sein. Et le bébé a tété goulûment. Vanna avait beau venir toutes les nuits pour le nourrir, au bout d'un mois, son fils ne grandissait toujours pas, bien au contraire. Alors une nuit, désespérée, Niglo a attrapé l'ombre de Vanna pour la repousser. Mais elle s'est débattue, elle a hurlé comme une louve et dès l'aube, elle a disparu. Dans le berceau, le petit ne bougeait plus. Malgré son chagrin, Niglo a senti qu'il lui serait impossible de séparer Vanna de son enfant. Il a compris que seule la mort pouvait les réunir à jamais. Il a pris son bébé inanimé et l'a déposé dans le cercueil aux côtés de sa mère. Longuement, amoureusement, Niglo a contemplé le visage souriant et apaisé de Vanna. De Niglo, l'histoire ne sait plus rien. Mais l'histoire dit, aussi puissant que soit l'amour entre un homme et une femme, il n'égalera jamais celui d'une mère pour son enfant.
C'est pas pour dire, enquête de conte. Cette fois-ci, Anne-Gaëlle Goduchaud rencontre à Nantes la conteuse Muriel Bloch.
J'ai eu la chance d'organiser à Paris pour le Festival d'automne, qui est un festival...
Vous allez te poser cette question-là.
Voilà, ce qui est quand même un festival un peu élitiste. En 2000, donc ça, voilà, il y a un moment déjà, une invitation lancée à des conteurs pour raconter dans leur langue maternelle. L'idée n'était pas de moi, mais de la directrice du programme musical de ce festival, qui me connaissait par ailleurs.
Festival d'automne.
Le Festival d'automne à Paris, donc festival extrêmement avec du mécénat, qui a des moyens, et c'était quand même le haut du panier en termes de propositions culturelles d'avant-garde, etc. Donc que le conte ait sa place là, j'en étais ravie. Et très vite, elle m'a accueillie avec ces mots, attention, hein, les conteurs doivent être des gens remarquables. Je pensais au film de Peter Brook, Rencontre avec des hommes remarquables. Je veux des gens exceptionnels dans cette programmation. Et ça, vraiment, j'ai bien entendu ça. Et il y a eu des gens exceptionnels dans cette programmation. Et cette programmation, là où elle m'enchantait, c'est que le public du conte, qui est quand même un public souvent baba cool, allait pouvoir se retrouver ailleurs dans ce festival assez élitiste, mais où justement on se faisait du conte une haute idée. Donc avec les moyens du Festival d'automne, on a pu faire venir à Paris un conteur chinois racontant dans la langue de Suzhou, un conteur iranien, enfin des maîtres quand même dans l'art du conte. Bon, enfin, à l'époque, j'en connaissais encore peut-être pas assez, mais c'était des personnes. Il y en a eu 15 qui étaient chacune en son genre assez exceptionnelles pour
Ils
plein de raisons.
Sous-titrées ?
Et bien sûr qu'un sous-titrage avait été pensé comme à l'opéra, il y avait une projection et tous les. Alors, la difficulté pour ces conteurs, c'était que il y a eu 5 soirs. Il devait se tenir à la traduction, c'est-à-dire pas changer de conte dans le répertoire. Et puis, ils étaient par 3, parce que comme chacun racontait dans sa langue maternelle, si tu veux, il pouvait y avoir une lassitude d'entendre du grec pendant 1 heure et demie. Donc, il y avait 1/2 heure chacun, ils étaient par 3. Donc, tout ça avait été pensé avec des... Et puis, l'idée que un japonais puisse raconter en même temps qu'un gars qui raconte en yiddish, etc., c'était plutôt rigolo. Et même pour eux, ça donnait à la fois dans la proposition musicale qui n'était jamais il n'était jamais accompagné d'instruments de musique, c'était le diktat de la programmatrice qui était assez spécial, C'était juste la musicalité de la voix et de la langue.
Voilà. D'accord, d'accord.
Pas d'instrument. Bon. Donc ça en a, ça a handicapé quelques-uns. Ah. Mais voilà, c'était ça.
Mais donc là, l'idée était de proposer des récits, des contes en dehors complètement de leur milieu habituel. C'était... Y compris en termes de public d'écoute.
Bah, on avait réfléchi qu'à Paris, ville cosmopolite, quand il y aurait un conteur iranien, on peut trouver pour lui un public qui comprend sa langue quand même. Il y a encore à Paris des gens qui connaissent le chinois, il y a une communauté importante. Ouais. Bon. Donc, l'écueil de cette programmation qui a moyennement marché a été de deux ordres. Le premier, c'est que c'était tôt en septembre, et du coup, les étudiants en langue qui auraient pu n'étaient pas encore à suivre les cours. Donc, ce réseau-là n'a pas pu être touché. Le deuxième écueil, c'est que le public du conte a un peu snobé, pensant que le conte, il faut le comprendre tout, et que c'est dans un festival chic, etc., que c'est pas dans le 9-3, ou je sais pas, enfin, je caricature. Mais moi, qui espérais une mixité de public, de par les âges, étudiants, étudiant les langues, dadada, le public du conte, ils ont un peu fait la fine bouche, et le public du festival d'automne, face à cet art populaire présenté comme tel, a aussi un peu... boudé, quoi. Donc on n'a pas eu tout le public que j'espérais. Moi, je voulais que ce soit comble, si tu veux.
Ça s'est fait une fois, il y a eu une édition seulement.
Ouais, pour l'an 2000. Il y a un livre
on aurait pu imaginer qu'avec
qui garde la trace de ça. Oui, mais la directrice qui était très très exigeante, très spatiale. Puis ça a coûté cher quand même de faire venir des artistes de différents pays.
Mais enfin, travail de conteuse, tu travailles en effet à faire connaître le conte. Tu parles de cette programmation-là au festival d'automne, mais tu as fait, ou tu fais toujours, je ne sais pas, une programmation dans le festival Paris Quartier d'été.
Ah oui, alors, non, maintenant c'est fini, parce que je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, il faudrait inventer d'autres choses. La proposition, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le directeur du festival de Paris Quartier d'été, qui est aussi le directeur d'un théâtre à Paris. Je ne sais plus comment il a eu mon téléphone. Il a eu envie de programmer des contes et des conteurs et dans des lieux un peu insolites, puisque c'est quand même le projet de Paris Quartier d'été. Et donc, les conteurs, on peut les mettre un peu n'importe où. Et il avait envie d'une chose, comme du voyage, comme ça. Et puis, tous les deux, on est tombés d'accord sur les grands hôtels à Paris. Et on a pu passer un accord, justement, avec une chaîne d'hôtels à Paris. Les conteurs étaient logés, 5 jours, et racontaient. Et l'idée, c'est que le public parisien, qui n'a pas l'habitude de franchir les portes d'un grand hôtel, puisse y entrer pour une somme modique. Les gens demandaient, mais il faut s'habiller ou quoi. Enfin, c'était rigolo. Et mon idée forte, c'est que le conteur est quelqu'un... toujours pour moi in situ, c'est-à-dire que il est dans un grand hôtel, il faut réfléchir à ce que tu racontes dans un grand hôtel. Donc ça, c'était rigolo pour les conteurs. Et pendant 8 ans, donc j'ai varié justement les lieux. Alors le directeur m'a donné carte blanche. La première année, c'était pas mal passé avec les grands hôtels. Donc après, il y a eu aussi bien des lieux comme les musées, que des entrepôts, il y a eu les banques, il y a eu les cimetières, il y a eu j'en oublie plein, les salles de mariage des mairies, où là j'espérais que les conteurs raconteraient des contes d'amour. Tu vois, à chaque fois je me disais, moi si j'étais conteuse,
enfin, si on me faisait cette proposition,
je sauterais dessus pour réfléchir qu'est-ce que je raconte là. Tous n'ont pas joué ce jeu-là. La dernière édition aurait dû être une boîte de nuit. J'avais réussi à convaincre une boîte de nuit sur les grands boulevards à Paris de faire une nuit où justement il y aurait eu des épopées. Et malheureusement, ou heureusement en tout cas pour les intermittents, c'était l'année de la grève à Avignon, donc la programmation a été annulée. Ouais. Et l'année d'après... les objectifs du festival ont un peu changé. Du coup, ça faisait réchauffer de reprendre ça. Donc le directeur n'a pas insisté, et moi non plus. Donc il y avait des lieux comme ça forts, oui, les banques. Donc évidemment, tu racontes des histoires d'argent dans les banques. Dans les cimetières, ben, on rend hommage. On choisit. Les cimetières parisiens sont des lieux merveilleux de promenade. Donc après, libre aux conteurs de choisir leur mort et leur récit. Non, c'était. Il y a eu les lieux de culte. Hein, donc on a raconté aussi dans les églises, dans un temple, une synagogue, à la mosquée. Enfin, tu vois. C'était pas si facile d'avoir les autorisations pour tout ça.
J'imagine.
Mais on les a eues, on a pas mal travaillé en amont pour ça, et voilà. Et je trouve que c'est ça aussi le travail du conteur, c'est se faire l'écho d'un lieu dans lequel il se trouve, faire résonner le lieu. Ouais.
T'as dit ça plusieurs fois, en effet.
Le
conteur, il est quelque part.
Bah oui, il y a un contexte pour raconter, donc il faut. Faire avec ça, ouais. Bon, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas l'unique manière de voir les choses.
C'est sans doute une des choses qui différencie le travail du conteur de celui d'un comédien, par exemple, qui va souvent.
Maintenant, les conteurs plus jeunes ou moins expérimentés que nous de la première vague. Ils ont le mot spectacle à la bouche tout le temps, voilà. Mais moi, je m'en fous du spectacle. Enfin, fondamentalement, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, pour les raisons qu'on a évoquées, de programmation, tu vois, de d'institutions culturelles, faut proposer des spectacles. La notion de spectacle, évidemment, ça nécessite un travail spécifique où là, on peut rejoindre le travail de l'acteur, de mise en place. Bon, j'ai fait des spectacles, je continue dans le sens où c'est toujours la même chose. Enfin, voilà, j'apprécie ça énormément. Mais je ne suis pas convaincue que le travail du conteur, ça soit de proposer un spectacle. Voilà, c'est tout. Mais rien ne l'empêche de faire des spectacles. Ça, je ne suis pas du tout opposée à ça. Mais voilà, ce n'est pas la destination première. Donc, le travail du comédien, il est différent de celui du conteur. Et le comédien est au service d'un texte, d'une mise en scène, il joue des rôles, donc il est invité dans des théâtres pour le faire. Un conteur, il a cette souplesse qui lui permet d'aller ailleurs qu'au théâtre. Mais quand il est dans un théâtre, il se plie avec bonheur aux règles du théâtre, et si on a du son qui est bien, et je ne suis pas contre raconter avec un micro, je ne suis pas contre les éclairages, au contraire, mais j'aime bien me retrouver dans une pièce où il n'y a rien, où je peux foutre mes tissus au mur, et puis du moment que j'ai un tabouret ou pas, je suis debout, et voilà, ça va. Tu comprends?
Oui, je comprends bien.
Un comédien, il ne peut pas faire ça. Conteur, il peut. Et c'est ça notre chance, il faut la saisir. Je trouve un peu petit le monde du conte dans ses rêveries, quoi. Je voudrais qu'on rêve plus grand, mais c'est l'époque aussi qui est à l'étroit, peut-être. Je sens que ça se rétrécit, voilà, au lieu de s'ouvrir. Mais
je pense que je pourrais dire la même chose de l'éducation, ou il y a un certain nombre de domaines qui se rétrécissent.
Ouais, je trouve que ça se rétrécit, oui.
Tu vois, moi, je suis née en 69, ça veut dire que j'étais à l'école dans les années 80, tu vois, et j'étais sûre, parce que mes parents sont issus de 68, et j'étais sûre qu'on allait vers plus de conscience, plus d'expression, plus de responsabilité, plus de coopération. Et je me disais, quand je serai grande et que j'aurai des enfants, l'école, ça sera génial.
Bah non. Bah non,
ça a plutôt rétréci, en effet.
Voilà. C'est pas un constat très heureux, mais parce que l'époque n'est pas à la grande joie, non, je sais pas. Le conteur joue pas assez son rôle de conscience aussi dans ce monde qui va pas bien. Parce que les conteurs peuvent être. Enfin, beaucoup plus subversif, sans doute.
De conscience.
Oui, je me demande tout le temps ce qui est devenu. Enfin, tout le temps, j'exagère, mais on va bien savoir ce qui est devenu le compteur de Damas du café, même s'il pratique un art. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que le café existe toujours à Damas, tu vois? Je rêve vraiment d'un lieu qui n'existe toujours pas, où vraiment, à la manière du café de Damas, on pourrait vraiment écouter des conteurs. Pas dans l'étroitesse d'un petit resto et dans l'odeur du... Bon, c'est déjà pas mal que ça a existé, mais un beau lieu, un beau lieu.
Dans la tradition de l'Inde, ce monde a plusieurs fois disparu. Mais il a réapparu. Dans le Mahabharata, on raconte que lorsqu'arriva la fin du monde, il ne restait plus sur la terre qu'un seul homme. C'était l'unique survivant. La terre n'était plus qu'un marécage gris, brumeux et froid. Ce dernier homme était déjà un vieillard, et on ne sait ni pourquoi ni comment il avait échappé seul à la destruction du monde. Il s'appelait Markandeya. Et il marchait dans la boue, il pataugeait dans l'eau glauque de la terre. Markandeya était épuisé. Il ne trouvait nulle part où aller, aucun toit, aucune voie, pas la moindre trace d'être vivant autour de lui. Lorsqu'il appelait, seul le silence lui répondait. Le dernier homme avançait péniblement, le cœur lourd, la tête vide. Il était désespéré, à bout de force. Soudain, sans savoir pourquoi, il s'est arrêté. Puis il s'est retourné. Derrière lui se tenait un arbre, surgi de nulle part. Un arbre magnifique, planté dans la boue. Un figuier. Sur l'une des branches de ce figuier, un enfant était assis. Il était très beau. Et il souriait à la vue du dernier homme, chancelant, épuisé. « Tu m'as l'air bien fatigué. Est-ce que tu ne voudrais pas entrer dans mon corps pour te reposer un peu ?» Et en entendant cette étrange proposition, le vieil homme se dit « Ah, comme ce serait agréable !» Et l'enfant devait avoir entendu car il ouvrit la bouche le plus grand possible. Aussitôt un vent violent se leva. Une rafale irrésistible emporta Markandeya vers cette bouche d'enfant, grande ouverte. Le dernier homme y entra tout entier. Il chuta dans le ventre de l'enfant. Quand il ouvrit les yeux, il regarda autour de lui. Il voyait des champs parsemés de fleurs, une rivière qui coulait, des arbres chargés de fruits, des troupeaux et même une femme qui portait de l'eau. Markandeya se releva et il avança et aperçut une ville, des rues, une foule. Et plus loin encore, dans le ventre de l'enfant, il contempla la terre tout entière, calme et belle. Il entendit gronder l'océan. Et au-dessus de sa tête, le ciel lui parut clair, illimité. Markandeya marcha longtemps, peut-être des années et des années, sans jamais pouvoir atteindre l'extrémité de ce corps d'enfant. Puis le vent se leva de nouveau, un vent très puissant, une rafale irrésistible aspira Markandeya vers le haut. Le dernier homme sortit par la bouche même de l'enfant. Et il le reconnut, souriant, assis tranquillement sur la même branche du figuier. L'enfant regarda l'unique survivant et lui dit « J'espère que tu es reposé maintenant. »
Once upon a time,
bien, c'est pas pour dire, mais c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Muriel Bloch d'avoir bien voulu se prêter au jeu de notre enquête de conte. Merci également à Anne-Gaëlle Goduchot d'avoir emprunté mon micro. Elle peut le reprendre quand elle le veut. Les extraits de récits que vous avez entendus aujourd'hui peuvent être retrouvés dans la grande discographie de Muriel Bloch, chez Naïve notamment, mais aussi Didier Jeunesse, Gallimard ou Enfance et Musique. En attendant de vous retrouver dans un café à Damas, à Alep ou à Saint-Nazaire, je vous salue bien bas.